Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit, Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Avis de gros temps entre Paris et Londres sur la question de la pêche. Le Royaume-Uni convoque l'ambassadrice de France. Le Brexit empoisonne les deux voisins. La voix des terroristes du Bataclan diffusée pour la première fois au procès des attentats du 13 novembre. Saisir l'horreur pour la justice et pour l'histoire. Compte rendu à suivre. Un bras de fer musclé entre le gouvernement et le Sénat sur la question du pass sanitaire. Pas question de le garder jusqu'à l'été prochain, préviennent les sénateurs. Trop de lits fermés à l'hôpital, ajoutez à cela une épidémie de bronchiolite carabinée chez les petits, les services de pédiatrie sont saturés, s'alarme un collectif de soignants. Didier Raoult, sous l'œil de la justice, le parquet de Marseille se penche sur un signalement de l'agence du médicament. Le professeur Raoult aurait mené des expérimentations totalement hors des clous sur des patients. Le temps pour cette fin de semaine, pas de chance, ce sera de la pluie et du vent, nous dira Marlène Duret. L'invité éco, Patrick Larocque, directeur de Total Énergie France, qui va installer des bornes de recharge électrique dans ses stations-service. Et puis, les unes de la presse pour demain matin. Le conflit sur la pêche entre Paris et Londres prend donc des allures de crise diplomatique. Le Royaume-Uni convoque l'ambassadrice de France sur les licences de pêche accordées aux pêcheurs français dans la Manche. Pour la France, le compte n'y est pas. Paris est déjà passé des menaces aux sanctions. Deux bateaux de pêche anglais ont été verbalisés. Londres n'a pas du tout apprécié, Océane Théard.
Oui, Paris est passé à l'acte après des semaines d'inertie dans la Manche. Londres ne comprend que le langage de la force, pestait ce matin Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes. Alors depuis, le ton est encore monté d'un cran, mais cette fois de l'autre côté de la Manche, puisque l'ambassadrice de France à Londres, Catherine Colonna, va être convoquée dans les prochaines heures par le gouvernement britannique. La France attend toujours des actes de nos voisins. Paris réclame encore plus de 200 licences au Royaume-Uni pour les pêcheurs français. Sans cela, à compter de mardi, les navires de pêche britanniques auront interdiction de débarquer leur cargaison dans les ports français.
Océane Théard avec Louis Dragnel, la gendarmerie maritime qui verbalise deux bateaux de pêche anglais au large du Havre. Le premier n'avait pas obtempéré, le second n'avait pas de licence pour pêcher dans nos eaux territoriales. Ce faisant, le gouvernement montre aussi son soutien aux pêcheurs français. Dans la filière, l'accueil est très positif. Jean-Luc Hall est le patron du Comité national des pêches.
Pour nos professionnels, c'est quelque part une satisfaction, puisque pour certains d'entre eux, c'est depuis 9 mois qu'ils attendent l'autorisation d'aller pêcher dans les eaux britanniques. Et nos pêcheurs ont besoin de résultats maintenant, parce que les comptes, pour certains, sont dans le rouge. Et si on n'obtient pas ces autorisations, on a des entreprises qui sont près d'un dépôt de bilan. Ça ne pouvait plus durer, il fallait adopter une position de fermeté.
Jean-Luc Hall, directeur général du Comité national des pêches, avec Nina Droff. Comment saisir l'horreur des attentats du 13 novembre ? La Cour d'assises spéciale de Paris a accepté la demande d'une association de victimes en diffusant pour la première fois au procès la voix des terroristes dans la salle du Bataclan. C'est un dictaphone laissé allumé qui a capté plusieurs heures d'enfer aux côtés des parties civiles. Gladys Laffitte, vous en avez entendu quelques instants.
Oui, un extrait qui dure 4 minutes. Il y a d'abord du brouhaha, mais très vite, le silence. Et puis deux voix d'hommes, deux terroristes. Ils parlent calmement, le ton est à peine vindicatif, ce qui tranche avec leurs propos. L'un menace des spectateurs, le premier qui bouge ou qui fait pas ce qu'on dit, on lui met une balle dans la tête. L'autre revendique leur acte. Vous ne pourrez vous en prendre qu'à votre président, François Hollande, qui combat les musulmans. Aujourd'hui, l'heure de la vengeance a sonné. De temps à autre, ils tirent, on entend quelques gémissements au loin. Une écoute très dure pour les parties civiles dans la salle, certaines pleurent, mais une écoute nécessaire demandée par Arthur Desnouveaux, président de Life for Paris.
Je comprends bien qu'on ait voulu protéger les gens de choses trop difficiles, mais après 5 semaines où elles se sont mises à nu, est-ce qu'il était temps de le faire ? Et il me semblait que cet audio-là était sûrement une pièce du puzzle les plus importantes, mais aussi parce qu'elle porte en elle les germes de questions politiques et que c'est les questions qui vont être abordées dans les semaines qui viennent.
Arthur Desnouveaux aimerait aussi que des images des scènes de crime soient diffusées pour montrer l'horreur. La Cour a promis d'y réfléchir.
Gladys Laffitte au procès des attentats du 13 novembre. Prison à perpétuité confirmée en appel ce soir pour Sinamed Glam, l'ex-étudiant algérien fiché S pour radicalisation, était rejugé pour le meurtre d'Aurélie Châtelain et un attentat avorté contre une église de Villejuif il y a 6 ans dans le Val-de-Marne. À quand la fin du pass sanitaire ? Juillet 2022 a tranché le gouvernement, mais c'est un choix qui ne fait pas l'unanimité, au point que le Sénat cherche à lui barrer la route. L'opposition de droite majoritaire ne veut pas entendre parler d'une prolongation du pass jusqu'à l'été prochain. Écoutez la sénatrice LR Catherine Di Folco.
Pouvons-nous accepter que le Parlement ne se prononce plus sur ces problématiques de sécurité sanitaire et de liberté fondamentale pendant plus de 7 mois ? Pouvons-nous accepter d'enjamber ainsi les échéances électorales majeures dont le résultat est incertain ? Qui sera l'exécutif ? Quelle sera la majorité à l'Assemblée nationale ? Il ne serait pas responsable de prendre ce genre de risque.
La sénatrice Catherine Di Folco en séance aujourd'hui dans l'hémicycle du Sénat. Comme elle, ses collègues des Républicains engagent donc un bras de fer contre le gouvernement sur la question du pass sanitaire, Louis Dragnel.
Oui, les sénateurs LR sont vent debout contre le prolongement de l'utilisation du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet. Eux défendent la date du 28 février comme limite au pass sanitaire. Précisant que si le gouvernement souhaite encore le prolonger, les sénateurs sont disposés à débattre à nouveau du texte à la fin février. Le second désaccord, la territorialisation. Philippe Bas propose de différencier chaque département. Selon lui, il faut se baser sur deux critères, le taux de vaccination et le taux d'incidence pour lever ou non le pass sanitaire. Adrien Taquet réfute cette proposition. Le secrétaire d'État à la famille estime que ces deux critères sont insuffisants et cela reviendrait à ignorer la réalité des déplacements des Français sur le territoire. Enfin, troisième point de désaccord, la transmission au proviseur de la situation vaccinale des élèves. Une mesure proposée par le gouvernement mais rejetée par le Sénat qui la considère comme une dérogation non justifiée au secret médical et attentatoire à la liberté individuelle.
Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Un déplacement très symbolique pour Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur était aujourd'hui en Alsace pour une cérémonie de réhabilitation du cimetière juif de Sarre-Union, profané il y a 6 ans. De longs travaux lui ont rendu son aspect d'origine. Gérald Darmanin a profité de cette visite pour dénoncer l'antisémitisme et ses voix qui attaquent la République. Sans le nommer, c'est bien Éric Zemmour qui était visé.
Il n'y a pas que l'État qui peut protéger les Juifs de France. Nous avons tous, à notre petit niveau sans doute, les moyens d'agir et d'aider les autres. La France continue à se battre contre ces vieux démons. Il y a un inconscient collectif sans doute que certains essayent de réveiller qui nous montre que jamais le combat n'est totalement terminé. Nous devons écouter avec beaucoup d'attention les discours. Les gens qui dénoncent les religions sont des gens qui remettent profondément en cause ce qui fait la République. Et une république qui attaque la laïcité en essayant de cacher des vêtements ou en faisant changer des prénoms, je crois profondément qu'elle nous prépare des lendemains bien difficiles.
Allusion du ministre donc à Éric Zemmour qui veut obliger les parents à choisir des prénoms français pour leurs enfants. C'était Gérald Darmanin avec Mélina Fachin, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est. Joe Biden n'arrivera pas les mains vides à la COP26 dimanche prochain à Glasgow. Le président américain annonce un plan historique des États-Unis contre le réchauffement climatique. 550 milliards de dollars pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pas assez sans doute pour dissiper les doutes sur les chances de succès de ce sommet mondial sur le climat. Présenté comme celui de la dernière chance. Au rang des absents, Xi Jinping pour la Chine, premier pollueur mondial, mais aussi Vladimir Poutine pour la Russie et Jair Bolsonaro pour le Brésil.
Europe Nuit, Alexandre Lemaire.
Au troisième jour du procès des meurtriers présumés de Mireille Knoll, la cour d'assises de Paris a découvert la personnalité de la victime. Une dame de 85 ans, de confession juive, tuée de 11 coups de couteau il y a 3 ans dans son appartement parisien. Pour raviver son souvenir, des témoins se sont succédés à la barre, comme Daniel Knoll, l'un de ses fils.
On a montré tout au long de cette matinée combien ma mère avait une ouverture d'esprit extraordinaire. Et puis... l'assassinat de maman, ça concerne toute la France. C'est-à-dire que nous sommes solidaires de tous ceux qui ont été assassinés en France, c'est-à-dire, je pense, au commandant Beltrame, au prêtre Hamel, le pauvre Samuel Paty décapité. J'ai voulu aussi faire le rapprochement avec mon père, ancien déporté. Ce que nous ressentons aujourd'hui dans notre chair est difficile à exprimer tellement c'est plus que l'horreur.
Daniel Knoll au micro européen de Zoé Pallier. L'hôpital, comme un colosse au pied d'argile, fragilisé par le Covid et le manque d'effectifs, les hôpitaux publics ne peuvent pas mettre à disposition tous leurs lits. On vous en parlait hier sur Europe 1, des milliers sont fermés. Au même moment, les services de pédiatrie arrivent à saturation avec l'arrivée d'une épidémie de bronchiolite. Réunis dans le collectif interhôpitaux, des médecins réclament des renforts de toute urgence. À l'hôpital de Versailles, par exemple, le docteur Véronique Engen ne peut plus soigner tous les enfants qui se présentent.
La saturation des urgences aujourd'hui est vraiment multifactorielle. On a le problème de la fermeture des lits et on a le problème en fait essentiellement des conditions de soins que nous donnons aujourd'hui à nos patients. N'avoir pas le temps de leur parler, ne pas avoir la possibilité de les hospitaliser dans un lit proche de leur maison. Je peux vous assurer que lorsque vous dites à quelqu'un qui habite à Versailles que son enfant va être hospitalisé à Chartres ou Dreux, vous avez un tout petit peu de mal à leur expliquer que c'est parce que vraiment, il n'y a pas de solution sur site. Franchement, c'est ça en fait, les soins dégradés, et c'est ça qui fait que nos conditions de travail sont complètement dégradées et même les plus motivés finissent par perdre foi là-dedans.
Le docteur Véronique Engen aux urgences pédiatriques de l'hôpital de Versailles. Didier Raoult l'assure, il n'a jamais mené aucun essai clinique illégal sur la tuberculose à l'UHU de Marseille, toujours placé sous sa direction. Une enquête de l'agence du médicament dit pourtant tout le contraire. Le professeur controversé aurait conduit des expérimentations sauvages sur des patients qui ont conduit à des complications rénales et même à une intervention chirurgicale. C'est donc la goutte de trop, Stéphane Burgat. Cette fois, l'agence du médicament saisit la justice.
En effet, le parquet de Marseille a reçu ce dossier mardi. Les magistrats font actuellement une première évaluation dans l'éventualité de suite judiciaire. Pour l'agence du médicament, il y a bien eu des essais cliniques menés hors cadre légal avec un protocole de 4 molécules, 4 antibiotiques administrés à des malades atteints de tuberculose multirésistante. Malgré les réserves émises contre 2 de ces médicaments, des accusations formellement démenties par Didier Raoult sur Twitter et en vidéo écoutée sur sa chaîne YouTube.
Sur près de 300 tuberculoses qui ont été diagnostiquées, il y en a 17 qui ont été traitées avec clofazimine et pyrimétamine. Et tout, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas d'inclusion. C'est des décisions qui sont prises, comme le dit la loi, c'est-à-dire un groupe de médecins qui discutent cas à cas. Et vous voyez que donc la proportion des gens qui ont été traités par ce traitement est très faible.
Voilà, Didier Raoult dément les essais, mais confirme quelques prescriptions au cas par cas, ce qu'on peut appeler des prescriptions de compassion. Alors, a-t-on affaire ici à de la recherche ou bien du traitement? De quel côté de la frontière se trouve-t-on? L'enjeu de ce dossier complexe est bien là.
Stéphane Burgat à Marseille pour Europe 1. Depuis maintenant une semaine, les personnes vulnérables peuvent se faire vacciner contre la grippe saisonnière. Cette campagne s'adresse aux personnes âgées, mais aussi aux femmes enceintes, Afsane Saboui, pour qui le vaccin anti-grippe est aussi recommandé.
Selon l'assurance maladie, moins de 8% des futures mères se font vacciner, alors que la vaccination contre la grippe leur est recommandée quel que soit le trimestre de grossesse. Pour Bénédicte Coulm, sage-femme à l'hôpital Trousseau à Paris, les femmes sous-estiment complètement le risque que représente une grippe en cours de grossesse.
On est plus susceptible d'être infecté par le virus que lorsqu'on n'est pas enceinte. On est également plus susceptible d'avoir des infections longues qui vont persister et également plus de complications respiratoires et de surinfections bactériennes, ce qui va conduire à des hospitalisations, c'est ce qu'on appelle des grippes graves. Et ce que l'on sait pour les infections virales, c'est que la fièvre en cours de grossesse, ça va pouvoir entraîner des contractions utérines avec un risque augmenté d'accouchement prématuré.
La balance bénéfice-risque est donc clairement en faveur de la vaccination. Elle n'augmente pas le risque de fausse couche, ni de malformation, ni de prématurité. Et en plus, elle permet au bébé de bénéficier des anticorps de sa mère pendant les 6 premiers mois de sa vie où son système immunitaire à lui n'est pas encore opérationnel.
Afsane Saboui, spécialiste santé à Europe 1. Le groupe Facebook change de nom et de logo, appelez-le maintenant Meta. En grec, ça veut dire au-delà. Mark Zuckerberg veut ainsi signifier qu'il y a toujours plus à faire, toujours plus à construire. Meta est donc la maison mère des marques du groupe, Facebook toujours donc, mais aussi WhatsApp et Instagram notamment. L'équipe de France féminine de foot sur la route de l'Euro 2022. Elle hérite pour cela d'un groupe plutôt praticable après le tirage au sort aujourd'hui à Manchester. Les Bleus partageront leur groupe avec l'Italie, la Belgique et l'Islande. Kylian Mbappé, forfait pour le PSG face à Lille demain soir en 12e journée de Ligue 1. L'attaquant star du Paris Saint-Germain est malade. Il souffre d'une infection ORL Et comme si ça ne suffisait pas, eh bien Lionel Messi n'est pas sûr non plus de répondre demain à l'appel. Une gêne musculaire l'a privé aujourd'hui de la séance d'entraînement. Le temps pour ce vendredi, Marlène Duret, pas de bol, le week-end arrive et c'est parti pour 3 jours de pluie et le vent.
Oui, c'est un vrai temps de Toussaint, Alexandre, et ça va commencer ce soir pour le vent. Ce soir et cette nuit, coup de vent sur le Finistère jusqu'au Cotentin. On attend des pointes à 90 km à l'heure dans les terres et plus évidemment sur les côtes. C'est un coup de vent lié à la perturbation pluvieuse qui a abordé la Bretagne et qui va traverser l'ouest du pays demain, des pluies qui gagneront donc dans l'après-midi les Hauts-de-France, tout le bassin Saint-Parisien, l'ouest de la Bourgogne, le Limousin et l'ensemble de l'Aquitaine. Des éclaircies arriveront évidemment une fois les pluies passées sur la partie nord-ouest. De nouvelles pluies vont arriver dimanche toujours par l'ouest. Donc vous voyez, c'est vraiment un passage pluvieux d'ouest en est, hein, parce que même l'est du pays se fera arroser pour la journée de samedi.
Donc, tout le week-end. Justice.
Et puis, il y a une autre partie de la France qu'on va surveiller. Le temps va se dégrader autour du golfe du Lion, puisqu'un épisode cévenol, et je vous en parlais hier, Alexandre, va se mettre en place avec des pluies qui vont se renforcer demain après-midi et en soirée, dans le Languedoc, pardon. Et on parlera d'un épisode méditerranéen samedi, dans la mesure où ces pluies vont s'étendre jusqu'à la Côte d'Azur. Météo France devrait placer d'ailleurs quelques départements en alerte orange hein, demain matin. Et pour finir d'obscurcir le tableau, des nuages en provenance d'Italie vont remonter jusqu'en Corse. Vous savez qu'en Sicile et du côté de la Calabre, on a eu des inondations, des pluies torrentielles. Il a plu l'équivalent d'un an de précipitation en 48 heures.
Et là, on est dans des intempéries meurtrières.
Exactement. On parle d'un Medicane. C'est un cyclone subtropical, hein. C'est la contraction de méditerranéen et hurricane, ouragan en anglais, et ça va influencer le temps en Corse, notamment dimanche où l'île sera copieusement arrosée. Il me reste encore quelques secondes pour les températures.
Je vous en prie.
Alors il va faire doux jusqu'à dimanche, les températures vont commencer à baisser lundi. Les maximales attendues pour demain vont s'échelonner entre 15 degrés à Brest et 20 à Grenoble, avec 16 à Paris, 17 à Rennes, 18 à Bordeaux. Et puis, on prévoit jusqu'à 21 au pied des Pyrénées et 23 dans le Roussillon. Voilà, vous me pardonnerez ces petits problèmes de gorge, de voix. C'est la saison.
On est tous plus ou moins... On a bien compris que tout le monde allait être arrosé. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux.
Ouais, c'est ça.
Merci Marlène Duret. On vous retrouve à minuit pour un dernier point météo sur Europe 1. Tout de suite, on marque une pause. Dans un instant, ce sera Top à Wall Street avec Didier Hamot. L'invité éco, nous serons avec Patrick Larocque, directeur de Total Energy France. Total qui va installer des bornes de recharge électrique dans ses stations-service. À tout de suite.
Europe Nuit, informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
On retrouve Top à Wall Street avec Didier Hamot sur Europe 1. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
Wall Street qui repart en direction de ses sommets hein, avec l'aide des bons résultats des groupes américains.
Ça remonte au plus haut, plus 0,68% sur le Dow Jones, 35 730 points. Le Nasdaq grimpe carrément d'1,39%, 15 448 points. Les publications trimestrielles des groupes américains continuent de soutenir la tendance de façon spectaculaire parfois. On a ce soir Ford, le constructeur automobile en hausse de 8,6%, 16,86 $. Ford qui annonce des résultats opérationnels revus en hausse pour l'année en cours autour de 11 milliards de dollars et le retour aussi d'un dividende. Donc Ford en forte progression de plus de 8%. Et puis ce sont encore les valeurs de technologie qui grimpent hein, avec Apple plus 2,5%, avec Amazon plus 1,6%, Microsoft plus 0,3%. Tesla, encore plus 3,8% au plus haut, 1077 $ sur Tesla. Puis Facebook, qui va s'appeler Meta, on en parlait l'autre jour. À cause du métavers, eh bien, Facebook reprend 1,5% ce soir à $316,92.
La bourse de Paris, Didier, a refranchi le cap des 6800 points ce soir en hausse de 0,75%.
Oui, ça se passe bien. Hein. 6804 points, effectivement, plus 0,75%. La Banque Centrale Européenne n'a pas modifié sa politique monétaire aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment une surprise. Alors du coup, ce sont encore les résultats trimestriels qui ont dicté la tendance. Avec de bonnes nouvelles, chez Alten, plus 6,5%. Chez ST Micro, plus 6,5% aussi. Aussi, Capgemini, plus 6%. Même chose pour Dassault Systèmes, plus 5,8%. La plus forte hausse revient à CNP Assurance, qui prend carrément 35%, alors que la Banque Postale va reprendre la participation de BPCE à 21,90 € dans le capital de CNP Assurance et lancer une offre sur le reste du tour de table. Ça donne donc cette très forte hausse du titre CNP qui s'ajuste sur le prix d'offre en hausse de 35%.
Exception du jour, le secteur pétrolier qui marque encore le pas.
Oui, autour des 82 $. Hein, ça consolide, comme on dit, sur le baril. Logiquement, tout le compartiment qui avait beaucoup progressé ces dernières semaines souffle comme Vallourec, moins 4%. 1%, Morel et Prom, moins 3%, Technip, moins 1,5%, Total aussi, Total Énergie, moins 0,8%, 43,29€. Ailleurs, pas beaucoup de mouvements à Madrid, à Londres, à Francfort, c'était stable, Milan, plus 0,3%, et le CAC 40 à Paris, donc plus 0,75%, 6804 points.
Merci Didier Hamot de Boursier.com. Le groupe Total va donc bientôt installer des bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques dans certaines de ses stations-service et dans toutes les stations-service, même d'ici à l'horizon 2023. Pour en parler ce soir, l'invité éco sur Europe 1, Guillaume Larocque, directeur de Total Énergie France. Il répond à Emmanuel Duteil. Bonsoir Guillaume Larocque.
Bonsoir Emmanuel Duteil.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur de Total Énergie France. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est parce que vous avez annoncé ce matin un très gros investissement pour doper, si on peut le dire, le nombre de recharges pour les voitures électriques sur les autoroutes et les voies express. Un plan de 200 millions d'euros pour développer des recharges haute puissance. Et c'est ça qui change tout. On va donner un exemple. Il paraît qu'avec ces recharges, on peut avoir une autonomie de 100 km en 6 minutes. Est-ce que c'est déjà bien le cas ? Est-ce qu'elles sont aussi efficaces ?
Oui, tout à fait. Alors, ça dépend du modèle de véhicule que vous conduisez. Mais un nombre croissant de véhicules en France aujourd'hui, et c'est évidemment le sens de l'histoire, peut accepter de la charge, donc ce qu'on appelle la charge à haute puissance, la charge ultra rapide, une charge à 175 kW qui vous permet effectivement de charger 100 km en 6 minutes.
Alors là, de façon concrète, il va y avoir 60 stations qui vont être équipées d'ici à la fin de l'année. Ce sera 110 d'ici à fin 2022, puis ça progressera encore en 2023. Concrètement, ça veut dire combien de pompes en plus ? Parce qu'on voit bien le nombre de stations, mais il y a combien de pompes par station ?
Le nombre de bornes par station évoluera entre 8 et 16. Et ça sera décidé individuellement pour chaque station en fonction en fait, de sa fréquentation et de son potentiel. Donc, par contre, dès 2022, vous verrez des stations dans lesquelles vous aurez 16 points de charge, 16 bornes.
Alors, c'est un point extrêmement important puisque ça vous permet de garder les clients des voitures électriques dans vos stations-service. Sinon, ces clients, ils allaient aller sur les aires d'autoroute sur lesquelles il y avait des bornes. C'est ça aussi l'intérêt pour Total.
Alors, les aires sont à voir comme un ensemble unique. En fait, l'objectif de l'aménagement des aires... Et nous sommes dans les aires seulement sous-concessionnaires, nous ne sommes pas le concessionnaire principal, ce sont les sociétés d'autoroute qui sont le concessionnaire principal. L'objectif, c'est d'avoir des aires qui offrent un service global au client et que le client n'ait pas à se demander qui offre quoi à tel ou tel endroit. Donc, c'est bien une harmonie générale qui est recherchée. Donc, en fait,
c'est une harmonie générale, mais accessoirement, elles seront sur des endroits où il y avait des stations-service Total. Donc, l'idée, c'est quand même bien de garder vos clients, ce qui peut se comprendre.
Elles seront plutôt sur des endroits où vous aviez des places de parking. Alors des places de parking qui étaient partie intégrante de la sous-concession de la station-service, mais c'était bien les places de parking sur lesquelles vous vous arrêtez quand vous faites une pause. Et donc ces places de parking vont être aménagées avec des stations de recharge électrique.
Est-ce que ça veut dire qu'à terme, vous allez en même temps enlever des pompes dans vos stations-service traditionnelles ? Parce qu'on peut se dire que peut-être une partie importante du trafic à terme va aller vers les bornes de recharge électrique.
Alors sur autoroute, non, pas encore, parce que le flux routier sur autoroute fait qu'on aura un mix énergétique encore à gérer pendant un temps long et que sur autoroute, on dispose du foncier nécessaire pour faire du multi-énergie, c'est-à-dire avoir à la fois les carburants traditionnels que vous connaissez et l'électricité sous forme de bornes électriques. Par contre, en ville, dans un espace plus contraint, dans lequel les fonciers sont beaucoup plus restreints, on est amené à faire des choix, effectivement, qui sont des choix exclusifs pour une énergie. C'est par exemple le choix qu'on a fait sur le boulevard circulaire de la Défense. Nous avions une station-service traditionnelle avec du carburant et elle a été transformée en parc de charge électrique. Et aujourd'hui, dans cette station, alors vous avez toujours une boutique et du lavage parce que les activités autres que les activités énergétiques sont toujours essentielles. Mais aujourd'hui, cette station ne distribue plus
que l'électricité. Et ça pourrait se multiplier, ces cas, ça s'accélérer en tout cas dans les mois et les années à venir ?
Tout à fait. Nous avons un plan qui vise à avoir une centaine de hubs, ce qu'on appelle des hubs, donc des stations de charge urbaines. Donc typiquement sur le modèle que je viens de décrire majoritairement, c'est-à-dire des bornes électriques auxquelles on associe une offre de restauration ou une offre de boutique ou une offre de lavage.
Alors ce plan est donc important, je le disais, 200 millions d'euros, ça s'inscrit dans votre stratégie de muter le groupe vers les nouvelles énergies. Parce que pour ceux qui ne le sauraient pas encore, on vous appelle plus Total, mais on vous appelle Total Énergie avec un S, il paraît que ça change tout. Et du coup, ces investissements, ça montre bien la mutation du groupe.
Alors oui, ça change tout. D'abord, quand on change notre nom, c'est une action qui change tout du point de vue de l'interne et du point de vue de l'externe. Ensuite, oui, bien sûr, quand on équipe de manière massive nos stations-service avec des solutions de recharge électrique, ça change tout parce que ça change pour le client. Et ça veut dire que nos clients, on les accompagne pour changer d'énergie. On parle bien sûr des clients particuliers, mais aussi on parle des clients professionnels. Il y a beaucoup de clients professionnels aujourd'hui qui changent leur flotte de véhicules. On les accompagne pour passer d'énergie thermique à des énergies comme, par exemple, l'électricité.
Et c'est vrai que ce qui est important aussi avec ces bornes de recharge haute puissance, hein, que vous allez donc progressivement installer dans les mois à venir, je rappelle, une soixantaine de stations sera équipée d'ici à la fin de l'année. Elles sont très rapides, on le disait, 100 km en 6 minutes environ, mais également 80% du plein d'une batterie en seulement 20 minutes. Il paraît que c'est le temps moyen qu'on passe sur une aire d'autoroute.
Absolument. Aujourd'hui, le temps moyen que nos clients passent sur une aire d'autoroute, c'est entre 20 et 25 minutes. Ça montre d'ailleurs que l'offre que nous avons, autre que l'offre énergétique, est pertinente. Il y a d'abord les sanitaires. Nos clients viennent nous visiter sur autoroute pour l'utilisation des sanitaires, mais aussi la restauration, qui joue un grand rôle, la boutique. Et donc, toute cette offre, bien sûr, persiste, reste, et elle sera particulièrement pertinente pour... comme elle était pertinente pour le temps d'attente carburant, mais qui est beaucoup plus court, comme vous le savez. Hein, le plein de carburant, ça dure environ 2,5 minutes. Là, un plein qui dure entre 20 et 25 minutes correspond parfaitement au temps actuel moyen de visite d'une station autoroutière.
Et au moment où les prix justement des carburants n'ont jamais été aussi élevés, est-ce que vous avez autant de monde que d'habitude ou vous sentez une tension du côté de vos stations-service parce que des gens iraient moins ou iraient vers notamment la grande distribution qui a lancé de nombreuses opérations à prix coûtant?
Alors je rappelle que Total Energy dispose du réseau Total Energy Access. Nous avons 700 stations sous la marque Total Energy Access en France. C'est l'un des plus grands réseaux prix bas de France. Donc nous y pratiquons des prix très compétitifs.
Vous voyez justement les gens se reporter en ce moment sur Total Access? Vous voyez qu'il y a plus de monde qui vient chercher justement des prix moins chers?
Alors vous savez, quand le prix du carburant baisse sur les stations-service, il a tendance à baisser de manière générale parce que les stations-service, c'est un marché très concurrentiel. Dans lequel, typiquement, vos stations s'ajustent aussi par rapport à la politique de prix pratiquée par la concurrence. Donc, c'est un mouvement général. Par contre, ce qu'on observe de manière traditionnelle et de longue date sur le marché de l'énergie et du carburant en particulier, c'est que quand il y a une hausse de prix, il y a un léger tassement de la consommation. C'est lié au fait que les clients sont peut-être plus attentifs à leur consommation.
Et là, vous le voyez en ce moment particulièrement ?
On le constate légèrement en ce moment. Comme j'ai dit, on constate de légers tassements de la consommation au moment de prix plus élevés.
Eh bien, merci pour tous ces détails. C'était Guillaume Larocque, le directeur de Total Energy France. Un grand merci d'avoir été notre invité ce soir. Nous, on se retrouve lundi 22h20 sur Europe 1.
Merci Emmanuel Dutheil. On vous retrouve demain également avec Elisabeth Assayag de 13h à 14h pour La France Bouge sur Europe 1. Votre invité sera le patron de la marque Pure Essentielle, spécialisée dans les huiles essentielles.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
La plupart des quotidiens demain regardent vers la COP26, vers Glasgow en Écosse, où s'ouvrira dimanche prochain le sommet mondial sur le climat. C'est un sommet à qui tout double, titre Les Échos, dans un climat, c'est le cas de le dire, de grande incertitude quant à l'issue de ce sommet. Les engagements des États les plus pollueurs restent très insuffisants pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, ce qui correspond à la fourchette la plus ambitieuse décidée par le sommet, l'accord de Paris. L'opinion se pose d'ailleurs la question, peut-on encore sauver le climat sans la Chine, alors que la COP26 de Glasgow aura lieu sans Xi Jinping, le président chinois? L'atmosphère de guerre froide entre Pékin et Washington complique encore l'obtention de progrès significatifs contre le réchauffement climatique. On va donc sentir, commente l'opinion, le poids des absents à cette COP26. Ce sommet sur le climat est présenté comme celui de la dernière chance. C'est donc l'heure des comptes, titre La Croix. L'enjeu, écrit le quotidien catholique, c'est bien justement de passer des intentions aux actes. Et puis, bad cop, cop pour COP26, bad cop pour les pays du Sud, titre 20 minutes. Des délégations ne pourront pas assister à cette conférence sur les changements climatiques qui débute donc à Glasgow dimanche. Enfin, le Figaro a rassemblé les pièces de l'échiquier. et vous propose le plan secret d'Emmanuel Macron pour la campagne de 2022. Associations de soutien, chasse au parrainage, budgétisation des meetings. Le Figaro dévoile le dispositif organisé autour du chef de l'État pour préparer sa candidature. 22h30, vous êtes sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voici venir avec vous, avec nous, Olivier Delacroix pour la Libre Antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Alexandre. Oui, il est là. Vous ne le voyez pas ce soir car vous avez déserté le studio Coluche.
Je sens votre présence.
Mais voilà, j'ai le don d'ubiquité, imaginez-vous. Comment allez-vous ?
Ça va très bien. Et
bon.
De là où vous êtes, je suis sûr que vous allez bien aussi.
Écoutez, parfaitement bien. Et là, ce soir, il y a beaucoup de monde qui a appelé au 39-21. Donc je vois, il y a du travail ce soir, beaucoup de travail.
Bon, eh bien écoutez...
On se dit à tout à l'heure.
Olivier, c'est à vous et à tout à l'heure.
À tout à l'heure.